Bon et tendre Père Céleste, nous t'invitons une fois de plus à nous enseigner de ta parole. Enseigne-nous comment vivre. Enseigne-nous comment être comme toi. Accorde-nous la sagesse de comprendre, d'être sanctifié par ta parole, d'être transformé. Et fais de nous des disciples vraiment consacré à toi, à ton service, au service des autres. Parle à travers de moi, donne-moi la langue pour parler, enlève de moi tout orgueil, n'importe quoi qui pourrait gâcher le message que tu as pour nous. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Le message ce soir, c'est très simple. Il s'appelle ton appel de Dieu. Ça se situe meilleurement, ça? L'appel de Dieu pour toi. C'est mieux? L'appel de Dieu pour toi. Une chose que j'ai réalisée qui est très intéressante, c'est que la plupart des gens, c'est-tu comme ça au Québec? Tout le monde a un cellulaire maintenant. Presque, non?
Ça marche pas ici.
Oui. Tout le monde a un cellulaire. Le mois passé, j'ai regardé mon cellulaire parce que j'ai un timer et j'ai vu 4800 minutes pour le mois. Moi, mon travail, c'est le genre de travail où je dois faire beaucoup d'appels, je reçois beaucoup d'appels de partout dans le monde. Mais quand j'ai regardé ça, 4800 pour le mois de mai, j'ai calculé ça sur la calculatrice. Et peut-être quelqu'un peut m'aider, mais c'était au moins 26, 27. C'est comme si j'avais parlé une ou deux jours au complet, continuellement. Et la plupart de ces appels, c'est des appels d'information, de recrutement, de toutes sortes d'affaires. Un appel. Moi, si j'avais le choix, j'aimerais ça jeter mon cellulaire dans la poubelle. Premièrement, parce que ça coûte trop cher. Et deuxièmement, parce que j'aurais la paix. Moi, j'ai vécu très bien avant le cellulaire. Je n'avais pas de problème. Mais maintenant, là, quand le cellulaire, tu es supposé répondre. Parce que tu as un cellulaire et je sais que... En tout cas, je ne vais pas expliquer ce que les gens disent. La plupart des appels que nous recevons, c'est des appels peut-être pas d'importance. Dans la vie, on reçoit des appels qui nous change, qui change nos vies. Peut-être un appel de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans l'hôpital, l'appel que quelqu'un a gradué ou va se marier ou va avoir un bébé, l'appel de quelqu'un qui est mort. Ah, c'est des appels qu'on reçoit, des appels qui changent nos vies complètement. Ah, j'ai eu quelques appels comme ça dans ma vie. Quand je lis la Bible, je réalise que Dieu aussi fait des appels. Peut-être pas à ton cellulaire, mais il utilise des moyens pour nous appeler, pour faire des appels. Le premier appel que moi j'ai pu constater, c'est dans la Bible, Genèse chapitre 3. Adam et Ève, ils avaient péché et se sont cachés de Dieu. Et l'appel numéro 1, ça se passe en Genèse chapitre 3, le verset 8. La Bible nous dit, « Alors ils, qui est Adam et Ève, entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu fait quoi? Appela l'homme et lui dit, quoi? Est-ce que Dieu, il savait où ils étaient? Alors, pourquoi il a demandé la question? Peut-être pour eux, ils sachent. Premier appel, appel numéro un. Je pense, Dieu nous appelle à faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de raisons pourquoi il nous appelle. Mais je veux juste faire l'emphase sur trois appels ce soir. Appel numéro un appel à la repentance. Un appel à la repentance. Luc chapitre 5. Si vous pouvez tourner avec moi les pages de vos Bibles, à Luc chapitre 5. Les pharisiens y parlaient avec Jésus. Luc chapitre 5, verset 32. Jésus répond, parce qu'il disait à Jésus, comment ça que toi tu manges avec les pêcheurs, les tout ça. Luc chapitre 5, verset 32, Jésus répond, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais quoi? Des pécheurs. Et la dernière fois que j'ai checké, on est tous des pécheurs. L'appel numéro un ce soir, c'est un appel à la repentance. Ici, il y a dans le petit livre vers Jésus que vous avez donné aux personnes, aux pauvres. Ça nous donne une définition de la repentance. Ici, ça dit, la repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Alors, la repentance, c'est deux choses. Premièrement, tu as la douleur ou la tristesse que tu as commis ce péché-là. Et numéro deux, c'est qu'il y a genre un détournement, il y a genre des pas qui se détournent de ce péché-là. Et moi, pour être honnête avec vous, j'ai passé longtemps avant de vraiment comprendre c'était quoi la repentance. Je commettais un péché, je demande pardon, je m'en vais au lit. Un jour après, je commets le même péché, je demande pardon. Un jour après, je suis tenté, ben, je vais commettre le péché, je vais demander pardon. Ça, c'est la théologie catholique, que tu pèches, tu vas au confessionnal, tu demandes pardon, et c'est fini. Et si jamais tu meurs, être sûr d'avoir assez d'argent que tu laisses de côté pour qu'il puisse avoir une messe, puis qu'il puisse te rentrer au ciel. Je ris, mais c'est triste, ouais. Repentance, c'est avoir une tristesse pour le péché et le détournement de ce péché-là. Dans Romains chapitre 2, si vous pouvez tourner là, Romains chapitre 2, ça nous dit, chapitre 2, verset 4, chapitre 2, verset 4, la Bible nous dit, « Oh, méprises-tu les richesses de sa bonté, la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Alors, l'appel numéro un, c'est un appel, l'appel pourquoi? La repentance. Et la Bible nous dit, la repentance, c'est une tristesse pour le péché et un détournement de ce péché-là. La Bible nous dit aussi que la repentance, il y a quelque chose qui nous pousse à la repentance. C'est quoi ça? C'est la bonté de Dieu. Alors, quand nous passons du temps dans la Bible et qu'on passe le temps à lire la Bible, on commence à voir la bonté de Dieu à travers les histoires, à travers les principes et la bonté de Dieu que nous voyons dans la Bible, c'est ça qui nous pousse à la repentance. Et la repentance, c'est une tristesse pour le péché et un détournement. Alors vraiment, l'appel pour la repentance, ce n'est pas un appel pour la repentance. Un appel pour la repentance, c'est vraiment un appel pour passer plus de temps avec la Bible. Et Satan, il sait ça. Il sait ça. Parce que vous savez, je parlais à vous, c'est quand j'ai commencé à vraiment lire ma Bible, j'ai trouvé ça extrêmement plate et extrêmement, c'est comme je sais ça, j'ai déjà lu ça, j'ai entendu ça, j'ai, not relative, c'est comme, oui, mais ça m'a rien fait. Et quand j'ai vraiment commencé à chercher, et tu sais, à cause que nous venons d'une génération de télévision, d'Internet et tout, ces choses-là, ça nous enlève, et même spécialement la musique. Je ne vais pas commencer là-dessus, mais même il y a la musique gospel qui nous enlève, qui peut nous enlever même le goût pour les choses spirituelles. Juste à cause que quelque chose dit Jésus dans le chant, ça ne veut pas dire que tout est sanctifié. Une fois que j'ai été aux États-Unis, je suis rentré dans un heavy metal rock Jesus concert. La balle, j'aurais jamais pu savoir c'était Jésus. Sauf Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, oh, il dit Jésus. Ok, c'est qu'est-ce qu'il. Ah, oh, Jésus qui dit. J'aurais jamais pu savoir si c'était chrétien. Là, je suis parti de là, j'ai dit, wow. Alors, même. En tout cas, je vais laisser ça, c'est pas le but de ce qu'on parle aujourd'hui. Mais, tellement de regarder la télévision, regarder, passer tellement de temps, même. La télévision m'a tellement affecté négativement. Il y a des bonnes choses à la télé. Que moi, j'ai dit à ma femme quand on se marie, chérie, moi, si ça ne te dérange pas, j'aimerais pas avoir une télé dans la maison. On a un video player, genre CD player, mais on n'a pas d'antenne, on n'a pas de câble. Et même avec ça, je trouve c'est très difficile de prendre le temps de lire la Bible. Mais avant ça, je passais 2, 3, 4, 5 heures dans la télé, pas de problème. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais regarder la télé, je dis qu'il y a des programmes, il y a des choses, la musique, qui nous enlève le goût pour les choses spirituelles. Alors que quand ça vient, Satan, il sait ça. Alors, il remplit ta vie de toutes sortes de choses pour que tu aies pu. Tu n'as pas le désir pour les choses spirituelles. Pour que quand tu viens pour lire quelque chose de spirituel, c'est triste. Et s'il n'y a pas un prédicateur qui est en feu, qui est vraiment. Et quoi. Ah, oui, c'est. Mais quand tu viens, tu es tout seul dans ta chambre, lire la Bible, écouter la musique. Lire la Bible, regarder. On va regarder la télé. Ce n'est pas un choix très difficile, tu comprends? Mais on est chrétien et on aime Jésus. Satan, il sait. Et c'est pour ça que. On pêche et on demande pardon. Et on pêche et on demande pardon. Et on pêche tellement de fois qu'on n'a plus un sentiment de regret. Il fut un temps où on faisait ce péché et ça nous causait, ça nous emmenait à pleurer même. Mais maintenant, notre cœur est tellement dur qu'on pêche puis on dit, ben, Seigneur, pardon. Et on continue. On n'a plus cette tristesse. Notre conscience, la Bible nous dit, parce que je ne connais pas le terme en français, mais. Notre conscience, oui. La Bible dit, your conscience is seared. Alors, ta conscience même n'est plus sensible. Est plus sensible, c'est ça. Oui, elle n'est plus sensible. Et tellement qu'il faut prier pour l'Esprit Saint nous donner une conscience sensible, parce que maintenant, on est rendu qu'on peut pécher, on peut... Et on pleure pas par... C'est tellement que... On ne sait pas c'est quoi la repentance. Alors, pour avoir la repentance, il faut commencer à zéro. Commencer à zéro, c'est prendre le temps dans la parole de Dieu. Même si c'est plat, même si on ne comprend pas, peut-être commencer à fermer la télévision, peut-être commencer à tourner la musique et fermer ça. Et commence à lire jusqu'à temps qu'on comprend. Continuer à lire jusqu'à temps que ça devienne intéressant. Et la Bible nous dit que... C'est la bonté de Dieu qui nous emmène à la repentance. Alors, si je continue à lire, et Jésus nous dit que c'est les Écritures qui témoignent de lui. Alors, si je commence à lire, et vraiment jusqu'à temps que ça fait du sens, et jusqu'à temps que je commence à intéresser, la Bible nous dit que je vais voir la bonté de Dieu. Et c'est cette bonté de Dieu-là qui va m'emmener à la repentance. Et si... Je continue à faire ça, ma repentance devient de plus en plus profonde. Tellement que même comme Pierre, il est rendu à un bout où crucifie-moi à l'envers, je ne suis pas digne, j'ai renié Jésus, oui, je sais qu'il m'a pardonné, mais à l'envers, c'est un honneur pour moi. Sa repentance était tellement deep, profond, à un point que. Il pouvait dire et faire quelque chose comme ça. Le premier appel, c'est un appel, appel numéro un, c'est un appel à la repentance, oui, mais c'est un appel à passer plus de temps avec la parole de Dieu, pour qu'on puisse voir la bonté de Dieu. Et cette bonté de Dieu va nous emmener à la repentance. Et on passe encore plus de temps, et on voit encore plus la bonté de Dieu, et la repentance devient de plus en plus profonde, jusqu'à temps qu'on a vraiment une tristesse pour ce qu'on a fait dans le passé. Parfois, on passe du passé et on rit des choses, des conneries qu'on a faites. Mais peut-être, si notre repentance est encore plus profonde, peut-être on serait triste au lieu de rire de ces choses, des conneries qu'on a faites. une tristesse et un détournement. On aime Jésus tellement, on a tellement d'amour pour lui que ça nous fait la peine quand on le fait mal et on a une résolution, une puissance divine, une conviction que jamais plus je vais toucher à ça. Un appel à la repentance. Vous savez, la parole de Dieu est puissante. Je faisais des études bibliques avec une famille. Il y avait une madame et un monsieur. Et le monsieur, il était pas trop responsive. Il était réceptif, mais il répondait pas beaucoup. Il était genre, tu sais, parfois quand tu vas aux portes, ou parfois quand tu parles à des personnes, ils te regardent. C'est pas, est-ce que mon point y rend? La madame, elle parlait beaucoup. C'était plus la madame qui parlait. Mais la madame, elle avait un problème. Elle était abusée sexuellement quand elle était jeune. Puis pour elle, Dieu, c'était un peu comme ça. Elle pouvait pas s'emmener à vraiment abandonner sa vie à un Dieu. Pour elle, quand elle voyait Dieu, c'était le Dieu de l'Ancien Testament qui voulait juger. Puis pendant 6 mois, j'ai étudié avec eux. Puis la seule chose que j'ai étudiée avec eux pendant 6 mois, c'est les pas pour comment aller vers Jésus. Tu sais, après 6 mois, tu penserais, OK, on va parler du sabbat, on va parler de les prophéties, mais chaque jour, je revenais, chaque semaine, j'allais là. Chaque jour, je revenais, on recommençait avec Jean 3:16. OK, écoute-moi là, regarde-moi, on commence. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est qui a aimé? C'est Dieu. A aimé. Non, mets ton nom. OK, car Dieu a tant aimé Justine. Tarara. Ouais, mais moi, je vois pas que Dieu, il peut. Tarara. Un jour, je suis venu à la maison, j'ai parqué ma voiture, j'ai dit, Seigneur, je gaspille mon temps. Je gaspille ton temps, je gaspille leur temps. La madame, elle comprend pas, le monsieur, il fait rien. Je pense que je retourne chez moi. Je me rappelle, j'ai démarré la voiture, j'ai mis ça en reverse, en marche arrière, on partait. L'Esprit Saint m'a dit non, vas-y une autre fois. 6 mois, Seigneur, 6 mois. C'est comme si je parle à un mur. J'ai dit, OK, je vais aller une autre fois. Dieu m'a montré ma responsabilité, c'est de partager. C'est la responsabilité de Dieu de convertir. Ce n'est pas ma responsabilité. Alors, j'ai parti la voiture, j'ai fermé le moteur, je suis rentré dans la maison. On ouvre la Bible, Jean 3:16, on commence. Je ris maintenant, mais je ne riais pas. D'un verset à l'autre verset. Finalement, la madame s'est arrêtée juste au milieu, elle m'a regardé, elle dit, tu sais, j'entends, mon mari n'est pas le même mari qu'auparavant. Puis le mari est juste là. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, tu sais, mon mari avant, il me sacrait, il me battait. Le mari est juste là. Mais il me traite comme une princesse. Il a arrêté de sacrer. Il ne m'a pas touché pour des mois. Mon mari est différent, il a changé. Et je regarde le mari et le mari devient rouge. Puis on dirait qu'il va le perdre. Puis finalement, le mari me regarde, regarde la femme, il dit non, j'ai pas changé. J'ai pas changé. Là, il devient, on dirait, fâché. Il frappe la table et il dit, non, j'ai pas changé. Puis les larmes ont commencé à couler. C'est Jésus qui m'a changé. Quand je suis parti de cette maison-là, je me suis dit, wow, la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu regardes et étudies la parole, tu vois la bonté de Dieu. Si tu peux prendre juste assez de temps de passer par-dessus ce qui est plate et ce que tu ne comprends pas, et de continuer jusqu'à ce que tu peux regarder et voir quelque chose de beau, de regarder et de voir Jésus dans sa beauté, il y a une puissance que les livres philosophiques et peut-être d'autres livres théologiques, ils n'ont pas. Une puissance qui peut transformer une vie, tellement que lui, il a pu voir la bonté de Dieu. Et même s'il ne disait pas un mot, la bonté de Dieu l'a amené à la repentance. Appel numéro 1, appel à quoi? À la repentance. Appel numéro 2. Appel numéro 2. Ça se trouve en Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Le verset 1. Ça, c'est Ésaïe quand il voit la bonté de Dieu. Ésaïe chapitre 6, le verset 5. Il dit, alors je dis, là, Ésaïe voit Dieu. Il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait brisée sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Alors, il a eu l'expérience de la repentance. Verset numéro 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Jésus nous sauve pour un but. Il nous sauve pour servir. Tu sais ça? Dans Message à la jeunesse. Ça, c'est une traduction Zita, OK? Pas plus sûr. Pas plus. C'est très sûr qu'il y a une place préparée pour toi dans le ciel. Mais également sûr, il y a une place spéciale désignée sur la terre, là où que toi, tu dois travailler pour Dieu. Alors, les jeunes gens, ils demandent, je ne sais pas quoi faire avec ma vie, je devrais être architecte ou peut-être infirmière. Mais Jésus, ces choses-là, c'est juste pour mettre du pain sur ta table. Vraiment, la chose spécifique, il dit, regarde, j'ai une place pour toi dans le ciel, j'ai une place spécifique, mais encore plus assurément qu'il y a une place spécifique pour toi dans le ciel, il y a une place spéciale et spécifique où toi, tu dois travailler pour moi. Pas pour être architecte ou infirmière, ça c'est bien beau, mais vraiment un ministère. Et si c'est dans un bureau d'architecte, OK, c'est bon, mais il faut que tu réalises que premièrement, ton devoir, c'est de servir Dieu. Servir Dieu. Alors ici, il dit, numéro 2, l'appel numéro 2, c'est un appel au service. Un appel au service. Nous avons tous peut-être une profession, une carrière qu'on étudie ou on pratique déjà. Mais cela est différent d'un appel. Dieu nous appelle à lui servir. Et il faut savoir, peut-être Dieu va utiliser tes talents que toi tu as, mais peut-être il va t'appeler à faire quelque chose que toi tu n'aimes pas ou peut-être tu n'es pas bon à faire. Nous ne sommes pas les gens qui doivent dire à Jésus qu'est-ce qu'on va faire. Il faut attendre et demander à Dieu qu'est-ce que toi tu veux de moi. Moi, je travaille avec des centaines de jeunes personnes et la majorité des jeunes, ils vont dire, je vais voir que je suis bon en biologie, je suis bon en ça. Alors, je pense que je vais devenir ça. Et là, je vais demander à Dieu de me bénir. Tu comprends? Et quand les adultes, ils disent, waouh, au moins, il y a quelqu'un qui prie à Dieu, dit gloire à Dieu. Elle choisit, elle ne veut pas devenir une voleuse de banque. Elle veut devenir un avocat. Alors, c'est quelque chose de... Avocat. dire quelque chose d'honnête, mais merci. Elle veut devenir notaire. Ça, c'est honnête. En plus de ça, elle demande à Dieu de l'aider. Quoi d'autre tu veux? Mais je dis, peut-être tu as des bonnes notes en notariat. OK, merci. Peut-être tu as des aptitudes très bonnes envers cela. Mais as-tu déjà demandé, Seigneur, je suis bon là-dedans, j'aime ça, ça c'est vraiment ce que je veux faire. Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? C'est très, très, très rare qu'on trouve des jeunes gens qui disent ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur de savoir ce que Dieu va leur dire.
Pas juste les jeunes gens.
Il y a une théologie qui nous dit que tu es appelé à faire ce que tu aimes faire. Cette théologie dans l'Église est fausse. Oui, ça se peut que tu vas être appelé à faire ce que tu aimes faire. Mais peut-être tu vas être appelé à quelque chose que tu n'aimes pas faire, premièrement, que Dieu doit te donner l'amour pour le faire. Et tu sais pourquoi je sais ça? Parce que j'en suis la preuve. Tu sais, pour moi, pour ceux qui me connaissent, quand j'étais très petit, j'étais très, très gêné. Très gêné. Très gêné. Je serais jamais capable de me tenir debout devant vous. Impossible. Impossible. Et c'est pour ça que quand quelqu'un m'a dit, « Jonathan, tu devrais venir faire du colportage aux États-Unis », j'ai complètement ri. Ça se dit? Ri. Juste, moi, t'es-tu fou? Et c'est pour ça que quand j'ai prié, même si une prière que je suggère, prier pour la volonté. Et c'est ça que j'ai réalisé quand j'étais jeune. Je peux prier pour savoir la volonté de Dieu. Mais si je ne prie pas pour une bonne volonté de suivre, ça ne vaut pas la peine. Parce que Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jonathan, je veux que tu fasses cela. Non, je ne veux pas le faire. Mais merci pour m'avoir dit. J'étais très curieux et je voulais juste savoir ta volonté. Et je continue à faire ce que je veux faire de toute façon. Alors, premièrement, avant de demander à Dieu ce que il veut que vous fassiez, prenez le temps de prier pour une bonne volonté. C'est ça? Willingness? Bonne volonté? Y a-t-il un mot meilleur que ça? Non. Priez pour une bonne volonté. Et alors, même si je ne voulais pas aller, j'ai décidé d'aller quand même. Et vous savez, les premières 3 semaines, genre, vous avez frappé aux portes pour à peu près 1 heure, même pas 30 minutes. Imaginez frapper aux portes 8 heures par jour pour un été. Et maintenant, moi, ça fait 12 ans que je fais. chaque nuit, j'attendais pour que tout le monde soit endormi et je pleurais. Je dis, Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. Pourquoi je suis ici? Pourquoi tu m'as envoyé? Mais j'avais trop d'orgueil pour appeler mon père pour venir me chercher. Et je suis resté. Et je suis content que je suis resté. Parce que ça m'a enseigné comment prier. Je pensais, moi, fils de pasteur, je pensais que je savais c'était quoi prier. Je savais que c'était quoi la foi. Une fois que je suis sorti là, j'ai compris que je ne connais rien. Je ne sais pas c'est quoi la foi. Je ne sais même pas prier. Tout ce que je prie, c'est pour moi, mes études, ma famille. Jamais j'ai pris le temps de vraiment prier pour des étrangers. Prier pour que Dieu puisse me donner un amour pour être rejeté, même si je suis rejeté pour un amour, pour continuer, pour persévérer, pour amener l'Évangile à quelqu'un que je ne connais même pas. C'était un travail que moi, je n'étais pas coupé pour faire. Mon frère, par contre, lui, c'était la personne qui était très outgoing et sanguine, ils disent, ou vraiment chaleureux, puis il parle, puis ah oui, c'était lui qui devrait le faire. Mais Dieu ne l'a pas appelé, lui. Dieu m'a appelé. Mais petit à petit, j'ai réalisé que quand nous faisons ce que Dieu veut que tu fasses, il te donne les qualifications de le faire et il te donne aussi l'amour pour le faire. Et en premier, quand je le faisais, pour moi, c'était tellement dur. C'était comme persécution. C'était comme, ah, juste la première porte. quand les gens ne venaient pas à la porte, je réjouissais et je donnais gloire au Seigneur. Parce qu'il n'y avait personne qui était venu. mon focus était vraiment mal. Jusqu'à temps que j'ai lu un texte qui dit « L'amour bannit la crainte. » J'ai dit « La raison pourquoi j'ai la crainte, c'est que j'aime pas ces gens-là. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'ai pas de problème à les parler. Si j'aime ces gens-là, j'ai pas de problème. » Mais ma prière a changé. J'ai commencé à prier « Seigneur, donne-moi l'amour. » Parce que je sais que quand j'aurai l'amour pour ces personnes, il n'y aura pas de problème. Et c'est ça qu'il a commencé à faire dans ma vie. Quand j'ai fini l'étude collégiale, j'avais beaucoup d'options. Mais j'ai ressenti que Dieu voulait m'appeler à faire ça. Et vous savez, en tant que colporteur, ton salaire est... ça fluctue plus en bas. J'ai dit, non, Seigneur. j'ai 16 ans, je fais ça. J'ai fait ça, j'ai payé mon école à travers ça. J'ai fait plus que tout le monde. Non. Je sais, Seigneur, que tu ne veux pas m'appeler à faire ça parce que ce n'est pas mes qualifications. J'aime mieux enseigner. J'aime mieux peut-être même être docteur. Ça m'intéresse, ça. Mais je n'avais pas la paix. Et je me rappelle un soir, c'était le jour de ma fête. J'avais gradué. Tout était fini. Et je me rappelle avoir marché dans les arbres derrière une maison où je restais. Et je suis rentré dans une clairière. Et je me rappelle, il y avait les étoiles et j'ai commencé à pleurer et à parler à Dieu pendant des heures. Juste essayer de convaincre Dieu que son plan n'était pas le meilleur plan. Et finalement, en soumission, j'ai dit, Seigneur, si c'est ça que tu veux que je fasse, être rejeté par les autres pour le restant de ma vie. Je vais le faire. Et si tu veux que je fasse ça jusqu'à ma mort, je vais le faire. Tu sais, quand j'ai dit ça à Dieu, la paix qui a rentré dans mon cœur. C'est pour ça que quand les autres me disent, pourquoi tu ne vas pas te chercher une vraie job? Quand mon père me dit, hey, tu as tellement de potentiel, va étudier d'ordinateur quelque chose, avoir quelque chose de plus sécure. C'est pas toi qui me donne la satisfaction. C'est pas toi qui me donne la joie, la paix. Quand je vais au lit, je peux savoir que j'ai fait une différence dans la vie de quelqu'un. Quand je vois des gens, des jeunes gens être transformés, quand je vois des gens qui sont même baptisés, pour moi, quand je vais au lit, peut-être, oui, c'est vrai, je pourrais avoir beaucoup plus d'argent, mais je ne serais pas heureux. Parce que je ne serais pas au milieu de la volonté de Dieu. Mes amis, peut-être vous avez beaucoup de plans pour vos vies. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Dieu a aussi un plan pour vos vies. Et parfois, le plan que Dieu a pour vous n'est pas le plan que vous avez pour vous-même. Mais le plan que Dieu a pour vous, c'est le plan où que vous tirez le plus de paix et le plus de joie. C'est vrai, quand j'ai dit oui à Jésus, c'était pas facile après ça. Souvent, j'ai eu la difficulté à trouver l'argent pour payer le loyer. Parfois même, je me rappelle, j'avais assez de gaz pour aller, mais pas assez de gaz pour revenir. Mais Dieu a toujours été fidèle. Toujours été fidèle. Il m'a jamais laissé tomber. Et parfois, je regarde ma femme et je dis, Seigneur, wow, chérie, Dieu nous a bénis tellement. Il a été si fidèle. Et en plus de ça, il nous donne la joie que nous, en tant que petit instrument, nous pouvons le servir. Appel numéro 1, appel à la repentance. Appel numéro 2, appel au service. Au service. dernier appel que je veux couvrir ce soir. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, le verset 13. C'est un texte que nous connaissons. Matthieu 24, verset 13, la Bible nous dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sera sauvé. » L'appel numéro 3, appel à la persévérance. Quelqu'un m'a dit, « Jonathan, Dieu t'appelle à la repentance. Après, comme Ésaïe, il t'appelle au service. Et après ça, il t'appelle à endurer toutes sortes de tests. Pour vraiment te tester, te brancher, vraiment pour te stabiliser dans ce qui t'a appelé. Et après ça, il te bénit. Le test, c'est une bénédiction aussi. Mais c'est genre, il te fait passer à travers le feu avant qu'il puisse te faire confiance avec toutes sortes de bénédictions. L'appel à la persévérance. Je pense que plusieurs des chrétiens, ils ont manqué la marque ici. Et plusieurs d'entre nous, peut-être on est quand même dans l'Église, mais on a arrêté de persévérer. Je rencontre plusieurs adventistes comme ça. Que, ah oui, j'étais jeune comme toi, oui. Il fut un temps que je croyais comme toi, oui. Toute zélée, tu vois. Mais tu vas voir, la vie est différente. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Dieu aussi, je ne veux pas me rendre à un âge où je peux dire que, ouais, je croyais que Dieu pouvait, puis Dieu y était, mais maintenant je suis rendu, ben, j'ai bien essayé beaucoup de fois, puis j'ai dû réaliser que la réalité de la vie est différente. Puis on doit juste vivre, et Jésus revient, je sais que Jésus revient, mais ma grand-mère dit ça, ma gars, Jésus, il va revenir quand Jésus va revenir. Puis il n'y a rien que tu peux faire qui va changer ça. Quand la Bible nous dit que nous pouvons faire quelque chose pour hâter son venir, même, la persévérance. Il y a plusieurs raisons pourquoi les gens ne persévèrent pas. Il y en a qui sont juste fatigués. Peut-être c'est à cause qu'ils font des choses dans leur propre force. Il y en a qui se sont fait mal, ou il y a des gens qui leur ont fait mal sur le chemin. Ils ont décidé que non, je ne peux pas continuer. Il y en a qui, peut-être, qu'ils ont été déçus, pas déçus, déceived, séduits par Satan, que peut-être les petites choses, Dieu, il s'en fout de ces choses-là. Et tu sais ce que j'ai réalisé? C'est que si tu n'abandonnes pas à Dieu les petites choses, ces petites choses-là, un jour, ils vont te contrôler. Et un jour, tu vas abandonner aussi. Plusieurs raisons pourquoi les gens abandonnent. Mais c'est toujours ton choix. C'est toujours mon choix si on va persévérer ou non. Je me rappelle, j'avais rencontré, pour finir, une madame. Puis elle était chrétienne. Et j'étais très content de l'avoir rencontrée. Elle a acheté beaucoup de livres. Parce que pour elle, elle voulait enseigner ses jeunes à suivre Dieu. Ouais, en tout cas. Puis on avait des livres comme... je faisais des gros livres. Alors, des livres comme les... La vie est une aventure, les belles histoires de la Bible, des gros volumes. Puis elle avait acheté beaucoup, à peu près 800 $. Moi, j'étais tellement content quand je suis sorti de là. Elle n'avait pas l'argent tout d'un coup, alors elle faisait des paiements chaque mois. Et quand ces paiements rentraient, j'emmenais des livres. Et le dernier paiement était en caoutchouc. Il y avait pas assez de fonds. Alors, le chèque, il a rebondi. Ouais. Et j'avais déménagé de Toronto à Ottawa, ou à Paul. Alors, la prochaine fois que j'ai été à Toronto, j'ai dit, je vais aller voir cette madame-là, montrer son chèque et on va faire quelque chose. Puis, j'étais à la maison, j'ai sonné, c'était comme ding-dong, c'était fort. Puis, j'ai regardé, c'était clean. Parti, disparu. C'est what? Alors, j'ai appelé peut-être, parce que parfois on demande des références, demander des... quelqu'un connaît ou... Non, j'ai aucune idée. Cette madame, elle avait 6 enfants. Et pour moi, tout disparu d'un coup. Elle était mariée aussi, elle travaillait, tout le kit. 1 an plus tard, ça fait à peu près 7 ans. 7 ou 8 ans. 1 an plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui savait quelqu'un ou quelqu'un qui connaissait où elle était. Je ne sais pas comment la conversation, mais je dis, waouh, ok, dis-moi, ok, j'ai pris son adresse, je vais aller visiter la madame. Je me rappelle, c'était un soir quand je suis venu. Je suis venu, j'ai sonné la porte est ouverte, c'était la madame. Puis j'avais mon chèque aussi dans la poche. Puis la madame que j'ai rencontrée ce soir-là, c'était une madame complètement différente que la première madame. Même madame, changée complètement. Elle m'a laissé rentrer, elle m'a expliqué, tu sais, j'attends, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière fois que je t'ai vu. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, premièrement, elle me dit, mon mari m'a laissé pour quelqu'un de plus jeune. Deuxièmement, j'ai perdu ma job. Troisièmement, ça fait 2 mois que je n'ai pas payé. Dans une semaine, je vais être dans la rue avec tous mes enfants. Puis quatrièmement, je ne crois plus en Dieu. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire, tu ne crois plus en Dieu? Elle me dit, tu sais, le matin, j'ouvre des boîtes. Ça, c'est dur. J'ouvre des sacs. La boîte au linge pour mettre du quelque chose pour mes petits-enfants. Puis je regarde dans mon placard, puis je ne peux rien trouver. Elle dit, si Dieu, c'est un Dieu d'amour, explique-moi. Un Dieu comme ça, tu peux le garder. J'ai eu beaucoup d'objections en tant que colporteur, mais ça, c'était l'objection royale. Qu'est-ce que tu dis à une madame comme ça? Oh, madame, il faut que tu croies en Dieu. Viens, on va chanter des chansons. Je savais, là j'étais, qu'est-ce que je lui dis? Finalement, j'ai dit, madame, est-ce que vous avez une Bible? Elle dit, quelque part. Elle dit, est-ce que tu peux aller la chercher? Elle me dit, je ne sais pas où elle est, ça fait des mois que je ne l'ai pas lu. J'ai dit, s'il te plaît, envoie quelqu'un, va le chercher. Elle a envoyé un de ses enfants aller chercher quelque part dans... L'enfant est revenu, je ne sais pas, maman, j'ai pas pu... Elle dit, va chercher la Bible. Finalement, ils ont trouvé la Bible quelque part. Et pour 3 heures, 3 heures, j'ai passé d'un verset à l'autre verset, d'une promesse à une autre promesse. Moi, je ne savais pas quoi dire à la madame, mais j'ai dit, madame, il y a la puissance dans la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours fait confiance à Dieu. Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Si tu mets ta confiance en Dieu, je sais, He will see you through. Il va venir pour toi. Je lui ai conté mon expérience en tant que teenager, adolescent. Comment j'étais arrivé à un moment dans ma vie où vraiment je voulais vraiment voir si, de tester Dieu, pour voir si Dieu pouvait vraiment me changer. Et j'avais fait un pacte avec Dieu. Je ne suggère pas que tu fais ça, mais j'ai dit, j'avais décidé que chaque jour, j'allais lire ma Bible et j'allais lire un chapitre du livre Jésus-Christ. Et comme j'ai expliqué au début, je lisais la Bible et je lisais Jésus-Christ et je somnayais et je ne comprenais pas. Et parfois, je lisais un paragraphe 6 fois. Et après 6 fois, parfois ça arrive quand on lit Madame White, on lit ça 6 fois. Puis, j'ai rien compris. Ou, c'est tellement, je ne sais pas, peut-être trop de Simpsons, ou je ne sais pas, de télé que j'avais regardé. Mais j'ai gardé ma promesse. Et chaque jour, je finissais mon chapitre, je lisais ma Bible et je finissais mon chapitre Jésus-Christ. Et s'il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie, à peu près la moitié du livre, j'ai commencé à désirer la vie spirituelle. Je dis, quand un jeune désire de vivre une vie spirituelle, c'est un miracle de Dieu. Et rendu à un chapitre de Calvaire, ça c'est le chapitre où j'étais brisé complètement. Et c'est rendu à ce chapitre que j'ai dit, Seigneur, je veux cette expérience, je suis prêt à tout pour avoir cette expérience-là. Et dans le temps, ma mère était partie et j'avais pas une bonne relation avec ma mère. De tous les enfants, c'était moi qui était le plus distancié de ma mère. Parce que pour moi, ma mère, elle n'avait pas raison de partir. Et, en tant que jeune, on a nos idées. Et je me rappelle que quand je suis arrivé au Calvaire, c'est comme je voulais être transformé. Je lisais que Dieu est capable et toutes les choses que Dieu voulait faire dans ma vie. Dis, Seigneur, je veux cette expérience. Mais c'était comme s'il y avait une barrière et l'Esprit m'a parlé et dit, Jonathan, il faut que tu pardonnes ta mère. J'ai dit, non. Dis, Seigneur, j'étais rendu à un point où j'avais fait un pacte avec Dieu. J'ai dit, Dieu, je n'haïs pas ma mère, mais je veux rien savoir d'elle. Alors, je suis indifférent. Et tu sais, c'est juste plus tard que j'ai lu, je pense, envers Jésus, que l'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Parce que si tu haïs quelqu'un et la personne est tuée devant toi, tu te sens tellement mauvais ou tu as assez d'énergie ou assez de quelque chose pour haïr. Mais si tu t'en fous, l'indifférence, la personne est morte devant toi, non, une autre personne. C'est commencé. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Et l'impression, tu veux cette expérience, tu veux ça, pardonne ta mère. Je me rappelle, j'avais pris le téléphone et j'avais composé ma mère et j'ai raccroché. J'ai composé, j'ai raccroché. J'ai composé, ça sonnait, j'ai raccroché. Composé, sonné, allô, raccroché. Là, je dis, Seigneur, je veux cette expérience, mais je ne suis pas capable. Donne-moi la force. Donne-moi. J'ai composé, ça sonnait, j'ai parlé. J'ai dit, maman, au lieu de lui dire, je te pardonne, j'ai dit, maman, est-ce que toi, tu me pardonnes? Parce que Jésus m'a montré que toi, tu peux vivre ce que tu veux, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'ai commencé à pleurer. Finalement, ma mère a dit, non, non, c'est toi, est-ce que toi, tu me pardonnes? Et depuis lors, moi et ma maman, on est des amis incroyables. Ma mère m'appelle pour prier, puis on prie ensemble, puis incroyable. Quand j'ai raccroché, c'était comme, c'est pas toujours comme ça dans la foi chrétienne, mais ça c'était une des fois où le téléphone a touché. Et quand le téléphone a touché, la paix et le fardeau, je m'ai ressenti comme si j'étais libre. Première fois dans ma vie. J'ai rencontré tout ça à la madame. Son nom, c'était Anne. Et j'ai lancé l'invitation de persévérer. 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 Elle dit, prends le temps de lire la Bible. Lis le livre Jésus-Christ. En même, je vais revenir demain, je vais te donner le livre même. Persévère. Tu vas trouver ça plate, mais continue à lire. Tu vas expérimenter la repentance. Tu vas expérimenter un appel de Dieu de le suivre. Et persévère. Le jour suivant, je suis revenu, j'étais pauvre, je suis toujours pauvre. Mais j'ai pris 100$ en 20$. Et je suis rentré ça dans le livre Jésus-Christ entre les pages. Puis je me dis, si elle ne lit pas, pour quelques mois, elle va être vraiment fâchée contre elle-même. Lis le livre, tu vas peut-être trouver quelque chose encore, en tout cas. Juste, il faut avoir du fun avec les gens, non? Donc, je lui ai donné le livre le jour après. et je suis parti à Ottawa. Un mois plus tard, je suis venu. Je dis, hey, je vais aller voir comment elle va, Anne. Alors, je suis venu. Ding dong, ça résonne dans toute la maison. Je regarde, clean, parti. Et tu sais, chaque fois que je passe sur l'autoroute à Toronto et je vois où elle vit, où elle vivait. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec Anne? Sois avec elle. Aide-la à persévérer. Chaque fois que je passe. Il y a quelques mois, j'étais dans une église à Toronto. Et je ne connaissais pas vraiment personne là. Puis je marchais. Puis j'ai entendu mon nom, Jonathan. Il y a plusieurs Jonathan. J'ai commencé à marcher. J'ai dit, Jonathan, regardez. C'est moi. Anne, tu te rappelles de moi? L'église Adventiste. T'es venu à ma maison. J'ai dit, Anne. Elle a couru vers moi. Elle m'a serré. Elle a pleuré. Il y avait du monde. J'ai pleuré quand même. Elle a dit, merci d'être venu à ma maison. Elle a dit, je suis maintenant baptisé adventiste dans cette église. Moi et tous mes enfants, on est ici. Et je vais te dire, Jonathan, que tu avais raison. Le livre, c'était plat. Mais elle m'a dit, alors que j'ai continué à lire, après la Bible, c'est le livre numéro 1. J'ai pu connaître Jésus-Christ. Et il m'a changé ma vie. Tu sais, quand je suis parti de cette église-là, pour moi, tu aurais pu me donner 1 million de dollars. Tu n'aurais pas pu me donner la joie que ça m'a donné. De voir qu'en tant que moi, que pécheur, j'aurais pu être un petit pion dans le grand jeu de Dieu pour encourager quelqu'un de persévérer et de voir cette personne prendre des décisions de suivre Jésus jusqu'au bout. La joie. Pour moi, c'était un goût du ciel. Dieu nous appelle toujours. Dieu vous appelle. Appel numéro 1, c'est un appel à la repentance. Peut-être vous n'avez pas eu encore l'expérience de vraiment savoir c'est quoi la repentance. Mon appel, c'est de passer du temps à la parole de Dieu. Regardez, continuez. Même si c'est plat, même si vous ne comprenez pas, persévérez. Vous allez voir la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu va vous emmener à la repentance. Appel numéro 2, c'est un appel au service. Dieu vous appelle à lui servir. Pas à une carrière. Une carrière, c'est beau. Mais vraiment, l'importance, c'est le service pour Dieu. Et moi, je lance le défi que vous puissiez demander à Dieu, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Moi, je veux devenir physicien. Moi, je veux devenir architecte. Moi, je veux devenir avocat. Mais toi, Dieu, qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je frappe aux portes, que je sois pauvre pour le restant de ma vie, que je frotte des bols de toilette avec des brosses? Si c'est ça que tu veux que je fasse, je sais, c'est que là que j'aurai le plus de joie et de satisfaction. Appel numéro 3, l'appel à la persévérance. Ça va être dur. C'est dur de suivre Jésus. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, il y a beaucoup de joie. Parfois, il y a beaucoup de paix. Parfois, il y a beaucoup de persécution. Parfois, c'est difficile. Mais l'appel numéro 3, persévérer. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prions ensemble. Bon et tendre Père Céleste, nous avons entendu ta voix. Nous appeler à grimper plus haut. Nous appeler à être transformés. Appeler à avoir l'expérience de la repentance. L'expérience de te servir. Non seulement le sabbat, mais toute notre vie, tout notre temps, tous nos talents, tout pour toi. Un appel à persévérer. Seigneur, je ne sais pas le cœur des gens ici présents, mais toi, Seigneur, tu les connais. Et tu sais ce qu'on a besoin. Alors, je prie une prière spéciale ce soir pour que tu puisses nous consacrer. Pour ceux qui ont besoin de la repentance, alors qu'ils prennent le temps dans ta parole, je te demande spécifiquement qu'ils puissent voir ta bonté et que cette bonté, par ton Esprit Saint, puisse les emmener à la repentance. Pour ceux, peut-être, qui ont eu l'expérience de la repentance, mais ils ne savent pas où te servir, quoi faire, je demande que l'appel soit clair, que tu puisses leur parler directement, sans doute, qu'ils puissent savoir où ils doivent travailler pour toi. Et Seigneur, je te demande que quand les choses deviennent difficiles, parce que ce n'est pas si ils vont, mais quand ils deviendront difficiles, donne-nous la force de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au jour qu'on puisse te voir face à face, qu'on puisse courir vers toi, lancer nos bras alentour de toi et te remercier pour ta patience et ta bonté envers nous. Seigneur, nous ne sommes pas capables, mais avec toi, tout est possible. Alors, aie pitié de nous ce soir. Accorde-nous notre requête pour ton honneur et pour ta gloire. Et consacre chaque personne ici présente pour toi et pour ton service. Au nom de Jésus. Amen.